Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 6, où nous allons observer le thème Mysterion. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. C'est pourquoi moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs, j'adresse ma prière à Dieu. Vous avez certainement entendu parler de la tâche que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux hommes, mais Dieu l'a révélé maintenant par son Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à avoir part avec les juifs au bien que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et participent eux aussi à la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Amen. Ce qui saute tout de suite aux yeux du lecteur dans ces passages, c'est l'emploi du mot « mystère ». Et cela me fait rappeler, moi j'ai suivi mes études d'humanité chez les frères maristes, donc j'étais éduqué chez nos amis catholiques. Mais j'aimais bien taquiner mon prof de religion à l'époque. Lorsqu'on leur posait des questions assez dérangeantes pendant le cours, ou un peu difficiles à répondre, ils avaient toujours cette manie de nous répondre, les frères maristes, « Oh, les voies du Seigneur sont insondables, mon fils, et c'est un mystère de Dieu. » Ce genre de réponse nous obligeait à ne plus continuer à poser des questions. Mais si tel est le cas, si vraiment c'est le cas qu'il y a des mystères, je me suis dit, quel serait alors l'intérêt de Dieu de préserver ce mystère ? Qu'est-ce qu'il gagne Dieu en faisant cela? Alors, pour répondre à cette question, la traduction de « mysterion » dans l'épître de Paul a été traduite par la plupart des versions de la Bible en français par « mystère ». Du coup, rien que le mot lui-même « mystère » rend les choses encore plus difficiles à comprendre. Mais en analysant le terme mysterion, en grec, il parle plutôt de secret qui a été caché pour un moment limité et qui va être révélé ou dévoilé au grand jour, au moment opportun. Et c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 60 tout à l'heure. En relisant les évangiles, je peux comprendre maintenant, à partir de la lecture paulinienne, l'explication de certaines choses, je ne sais pas pour vous, mais moi, qui ont été dites par Jésus et qui me semblaient incompréhensibles au tout début. Je vais vous donner quelques exemples. Jésus avait dit, par exemple, dans l'Évangile, la parabole sur le trésor caché. Le trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache à nouveau. Il est si heureux, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Mais il le cache d'abord. Voilà la parabole du royaume de Dieu. Par ailleurs, très souvent, aussi dans l'Évangile, après avoir fait un miracle de guérison, si vous avez suivi ces récits de guérison, à chaque fois, Jésus ordonna les bénéficiaires de sa grâce de ne rien dire. La seule chose qu'il permettait, c'est d'aller témoigner juste auprès de leur famille. Et ça s'arrête là. Or, si nous étions à la place de Jésus, on aurait voulu aller dire à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Comme ça, les gens vont me croire à moi. Mais il a dit, ne dis rien. Garde le secret pour toi. Et un dernier exemple, lors de la transfiguration, puisqu'on est dans l'épiphanie, la transfiguration sur la montagne, il n'avait pris que 3 disciples pour voir cette révélation-là, lorsqu'il était avec Élie et Moïse. Il aurait dû se montrer et se révéler à tout le monde, au moins aux 12. Mais pourquoi il a choisi que 3? Ce serait plus facile de faire croire en lui s'il le faisait devant tout le monde. Or, il est bien dit dans les évangiles que tous les disciples crurent en lui qu'après sa résurrection. Donc, la question qui me revient dans ma tête, pourquoi attendre? Pourquoi cette volonté de garder secret cette révélation qui, normalement, tout le monde devrait en bénéficier? Et moi, ce qui m'impressionne en ce Dieu qui est le maître du temps, qui est au-dessus du temps, au-dessus de toute chose, même ce Dieu-là, il accepte l'attente. Il accepte ce lent processus jusqu'au moment où cela fut complètement révélé à Paul. Dieu qui se plie au temps, même si Dieu est hors du temps. C'est étonnant. Ça, c'est de l'humilité divine que l'homme n'aura jamais. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur cette notion de persévérance de Dieu. Avant qu'il nous demande à nous d'être persévérants, sois persévérant. Lui-même, il s'est imposé cette notion de persévérance vis-à-vis de l'humanité et de l'homme. Il aurait pu prendre un raccourci pour rendre les choses plus faciles et plus rapides. C'est ce qu'on dit, non? Pourquoi Dieu ne rend pas les choses plus faciles, plus rapides? Prendre un chemin plus court? Pourquoi lui, qui est au-dessus de tout, lui aussi se plie au temps? Non, telle n'est pas la pensée de Dieu. Et si on se réfère à la parole que Jésus avait faite à Jean-Baptiste, rappelez-vous, lorsque ce dernier a voulu refuser le baptiser, il dit, mais c'est pas à moi de te baptiser. Voici ce que Jésus avait dit. Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Matthieu chapitre 3, verset 15. Car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. Vous voyez, dans ces 3 mots, acceptons pour le moment, il s'est soumis dans ce moment-là. C'est facile de lire cette histoire de Jean-Baptiste. Vous imaginez le Dieu Tout-Puissant qui se courbe devant Jean-Baptiste? C'est un blasphème. Un Dieu ne s'agenouille jamais devant un être humain. Mais il l'a fait. Et nous, êtres humains orgueilleux, jamais, jamais je me courberai devant toi. Il y a une idée d'un temps qui est en suspens. Mais cela a pour but pour l'accomplissement, dit la parole, et pour la réalisation de ce qui est écrit. Il y a un temps pour tout, chers amis. Et ce temps de Dieu n'est jamais en retard, même si cela nous paraît tard. Jamais tard, même si cela nous paraît tard. Chers amis, on nous prêche pas trop souvent que Dieu lui aussi persévère dans le temps pour se révéler pleinement à toute l'humanité. Il se révèle à nous, mais pas selon sa vitesse. S'il avait pris sa propre vitesse, j'aurais peur de notre destin. Mais il a pris notre vitesse à nous. Il n'a pas mesuré sa capacité à lui pour se révéler, mais il tient compte de notre petite échelle, 70-80 ans qui dure le plus. Il a accepté notre lenteur, ce Dieu infini. Et c'est là la clé de la compréhension de la Bible tout entière. Ne pas morceler les textes comme certains le font dans les sectes, en coupant ou en télescopant les passages bibliques pour refuter ou pour justifier certains enseignements bibliques. Il ne faut jamais lire les textes bibliques de façon isolée ou coupée des autres textes. Les textes s'expliquent entre eux. Et c'est pour cette raison que nous lisons trois textes tous les dimanches, non seulement le texte pour la prédication, pour que les textes s'expliquent entre eux. Parce que Dieu sait que nous sommes limités. On ne peut pas comprendre qui est Dieu. Nous sommes lents à la compréhension, puisque nous sommes que des humains. Et donc là où je veux en venir, si Dieu a pris tout son temps à travers plusieurs générations pour se révéler pleinement à l'homme, combien alors ne serait-il pas patient envers le pécheur qui mérite la mort immédiate et ne lui afflige pas momentanément sa colère sur lui? Quand nous sommes choqués de voir le païen qui est béni de Dieu, celui qui ne croit pas en Dieu, mais que Dieu attend toujours, c'est ça le temps de Dieu, un Dieu persévérant. La question alors, quel est alors ce fameux mystère ou ce fameux secret en question? Verset 2 dans Éphésiens tout à l'heure. « Vous avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans sa bonté, m'a confiée en votre faveur. » C'est-à-dire, il s'adresse aux païens, à l'église d'Éphèse. Et d'ailleurs, cette mission est tellement importante que Paul a été mis en prison à cause de cette mission. De quoi s'agit-il? Le salut a été aussi prévu dès le début des temps pour tout le monde et non seulement pour les Juifs. Vous allez peut-être me dire, ce n'est que ça. Je vous assure, ce message d'inclusivité-là ne fait pas le bonheur de tout le monde. Tout compte fait, que ce soit les Juifs orthodoxes qui ne croient pas en Jésus ou, et surtout, les chrétiens, les vrais ennemis de Paul, c'était les chrétiens juifs convertis au christianisme. Parce que le message de Paul dérangeait. Le salut ouvert à tous. Et donc, ce que Paul est en train de dire ici, dans son épître, c'est qu'il est le dernier maillon manquant, la pièce manquante de la grande chaîne de révélation que Dieu avait faite depuis les prophètes jusqu'aux apôtres. Parce qu'il était le seul à prêcher que le royaume de Dieu est aussi ouvert pour les païens. Ce qui a choqué Pierre à un certain moment quand Cornel est venu à sa rencontre. Je ne savais pas que Dieu avait aussi un projet, même pour le Romain. Et je vais vous faire un aperçu général concernant ce secret, qui est en quelque sorte un secret de Polichinelle, déjà mentionné dans les textes, mais voilé. On va lire les textes bibliques à travers ce secret messianique. Adam et Ève, responsables de tout l'univers et non seulement de leur propre personne. Ils avaient oublié qu'ils étaient là pour toute l'humanité. Et eux, ils n'ont eu une vision que pour eux. L'arche de Noé et la tour de Babel. Pour préserver le monde, Dieu fait une alliance à Noé. Mais à vrai dire, il le faisait pour tout l'univers à travers Noé. Même chose avec la tour de Babel. Ils voulaient rester entre eux, ces gens-là. Ils ne voulaient pas s'éparpiller dans le monde. Mais Dieu les a obligés de partir de leur côté, chaque côté linguistique. Toujours l'idée de l'universalité. Abraham, Dieu a fait alliance avec Abraham, avec lui pour sa descendance, certes. Mais n'oublions pas, dans Genèse chapitre 12, il est dit, « Tu es une bénédiction pour toutes les nations. » Et enfin, la captivité babylonienne, c'était le moment pour moi, le moment où le plan de Dieu se concrétiser pour l'univers, pour tout l'univers. Le salut universel était trop clair. Dans le fait est qu'il a laissé ses serviteurs pour être au service de l'empereur. Daniel était au service des rois païens. Et n'oublions pas, lors du retour à Jérusalem, l'Éternel avait même dit, « Mon Messie, celui que j'ai oint, c'est lui qui va vous ramener en Jérusalem. » Et c'était qui? Celui que Dieu a choisi pour reconstruire Jérusalem? Cyrus! C'est un païen. Normalement, ça devrait être un fils de David. C'est scandaleux. Oui, voilà le plan de Dieu qui se réalise. Bref, on pouvait déjà voir en filigrane depuis le début, mais le monde ne l'a pas vu, le plan de salut de Dieu pour tout le monde. Mais il était difficile pour les Juifs, même les disciples de Jésus, d'accepter ça. D'accepter que l'amour de Dieu ne fut pas seulement prévu pour quelques poignées de personnes. Chers frères et sœurs en Christ, dans ce type de texte, nous pouvons constater l'énorme différence qu'il y a entre l'amour de Dieu et notre amour. Notre cœur, comme disait un prédicateur, est si petit qu'il n'y a qu'une seule place disponible, moi. Voilà, il y a une seule place, moi. Il n'y a pas de place pour d'autres. Tandis que le cœur de Dieu est si grand qu'il y a de la place pour tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. La preuve, il a donné son Fils unique. Et regardez bien, il a préféré le laisser abandonner à la croix afin que son retrait puisse donner plusieurs places à tout le monde. Et pour terminer ma méditation, je vais reprendre une sagesse de la Kabbale juive qui s'intitule le Tzimtzum. Avant la création, disait cette Kabbale juive, Dieu remplissait le monde, puisqu'il est omniprésent. Tout l'espace était complet parce qu'il est si grand. Et donc, comme dit la Kabbale juive, pour que la création puisse se faire, il fallait que ce Dieu si grand se retire pour laisser de l'espace. Et quand l'espace existait, la création était possible. Et c'est une sagesse. Et il le fait en se retirant de lui-même, Dieu, en lui-même, Dieu qui se retire pour te donner la place. Et comme le dit si bien un dénommé Friedrich Hölderlin, il dit, Dieu a créé l'homme comme la mer a fait les continents en se retirant. Vous voyez, quand Dieu a créé le continent, comment il a fait ? Il n'a pas dit que les continents apparaissent, il a fait retirer la mer en donnant l'espace aux continents. Et donc si Dieu a retiré son peuple Israël de la promesse, si Israël jusqu'aujourd'hui ne croit pas en Jésus, c'est pour que toi et moi nous puissions croire en lui. Et donc il a mis en prison, entre guillemets, ce peuple pendant un certain moment. Mais le jour viendra quand Israël croira en Jésus, ce sera la fin. Ce sera la fin. Et donc, Dieu se retire pour donner l'espace à tout le monde. Et ce qui est fait encore plus mal, et là, je m'adresse à nous tous, moi y compris, si Jésus t'a dit, vous êtes le sel de la terre, vous savez ce que ça veut dire. Le sel doit disparaître. Ça n'existe pas un sel qui est là. Si tu veux donner goût autour de toi, tu dois... Tu dois diminuer. Or, l'homme, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut prendre la place. Et quand l'homme prend la place, il détruit.